Bonsoir et meilleurs voeux à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Toute l'équipe est heureuse de vous retrouver ce lundi 10 janvier 2011 pour son premier numéro de dialogue entre Congolais de l'année. Ce soir, nous avons retenu pour vous comme thème révision constitutionnelle. Dans une déclaration faite hier dimanche, l'opposition rejette la proposition de la majorité relative à l'organisation de l'élection présidentielle à un seul tour. Sur base de tels éléments, la majorité soutient-elle ce mode de scrutin? Comment analyser la réaction de l'opposition? Les règles n'ont pas changé. Trois invités avec moi dans ce studio pour dans cette émission plutôt pour le débat, à savoir Maître Jean Mbouyou, il est député national du PPRD. Et en ligne, Maître Jean Mbouyou, bonsoir et meilleurs voeux.
Bonsoir, meilleurs voeux, madame.
Merci. François Bamba, secrétaire général du MLC et député national, il est aussi en ligne. Bonsoir, Monsieur Mwamba et meilleurs voeux.
Bonne année à vous aussi, bonsoir.
Bonsoir, alors Joseph Kongolo, analyste politique, il n'est pas encore avec nous, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Vous êtes très nombreux à réagir au thème de ce soir, c'est le cas de Léon Bembo de Kinshasa. La révision de la loi électorale, spécifiquement la réduction de la présidentielle à un seul tour, peut être nécessaire compte tenu des raisons avancées, mais est-ce qu'elle est indispensable, Manara Kisuni de Kindu Manima? Je pense que cette proposition de la révision constitutionnelle doit être rejetée dans la mesure où comment on peut changer la constitution au cours de mandat sans passer par le référendum. Je souhaite que toute opposition se réunisse pour faire front commun afin qu'il y ait seulement deux candidats à la présidentielle et voyons si cette majorité qui se croit être majoritaire à l'Assemblée, alors ce n'est pas la population qui va voter. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM et à l'étranger sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78. Maître Jean Mbouyou, vous êtes député national PPRD. Nous commençons par vous. La majorité propose la révision de la Constitution. Sur base de quels éléments vous vous basez pour soutenir ce mode de scrutin?
Oui, nous avons demandé la révision de la Constitution essentiellement sur une question. C'est notamment celle d'avoir des élections qui se feront à un tour, étant donné que nous n'avons pas les moyens de les réaliser à deux tours. Il faut savoir que les élections réalisées en 2006 ont été entièrement financées par la communauté internationale en raison de plus ou moins 715 millions de dollars. Alors, dans le budget de 2011, l'équilibre budgétaire nous a conduit à prévoir à plus ou moins 360 millions de dollars pour les élections. Il va donc rester un gap d'à peu près 350 millions de dollars ou un peu plus. Et nous avons pensé que la communauté internationale qui avait promis de compléter ce montant avait bien accepté de le faire volontairement. Malheureusement, la communauté internationale n'a toujours pas répondu, ou du moins elle a dit que les souscripteurs à cette participation ne devraient pas donner plus de 90 millions de dollars. Et devant cette contrainte, nous avons dit, il vaut mieux que nous puissions compter sur le moyen. Et puisque les 360 millions de dollars ne nous permettent d'organiser qu'un tour, nous allons tabler et orienter toutes les élections à un tour et les avoir organisées adéquatement au lieu de prévoir deux tours alors que nous n'avons pas les moyens de deux tours. Voilà plus ou moins la réflexion de la majorité à cet égard.
Alors, il y a un auditeur anonyme qui dit ceci, Maître Jean Mbouyou. En 2006, l'État congolais disposait d'un budget de 2 milliards de dollars et on a réussi à organiser des élections à deux tours. Comment est-ce possible de croire que cela soit impossible en 2011 avec un budget de 7 milliards de dollars?
Oui, simplement parce que le budget voté par le Parlement pour 7 milliards n'a réservé aux élections que 360 milliards, 1 million plutôt. Et que le budget de 2006 n'avait pas pris en charge nos élections qui ont été prises en charge à ce moment-là par la communauté internationale, intégralement.
Alors, Maître Jean Bouillou, si aujourd'hui la communauté internationale donnait des fonds pour l'organisation des élections, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on organise un scrutin à deux tours?
Sans problème, sans problème. Mais ce fonds, il faut les donner maintenant, parce que les opérations électorales ont déjà commencé. Je peux vous dire que sur le budget 2010, nous avons déjà dégrevé 81 millions de dollars consacrés aux élections. Et ils ont été dépensés. Et pour le moment, nous sommes en train de dépenser de l'argent sur ce budget 2011. Et donc, si la communauté internationale veut intervenir, elle doit intervenir dès maintenant. Il ne faut pas attendre le mois de septembre ou de novembre. Et la vérité aussi, vous le savez, ça ne vaut pas la peine de s'y attarder. Depuis que ce débat existe, il n'y a aucun pays d'Occident, parce que c'est ce que nous appelons la communauté internationale, il n'y a aucun pays qui a offert de donner quoi que ce soit.
Et que dire des retombées du point d'achèvement, de l'atteinte du point d'achèvement, Maître Jean Bouillon?
Le point d'achèvement permettra d'économiser par mois à peu près 50 millions de dollars. Mais ces 50 millions de dollars, nous avons convenu avec la communauté internationale qu'ils soient consacrés au social. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les 50 millions de dollars devraient être augmentés au salaire des fonctionnaires, des enseignants et autres. Encore que ces augmentations, pour qu'elles soient significatives, devraient nécessiter plus ou moins 130 millions de dollars à ajouter mensuellement. Mais nous avons dit qu'on va organiser ces 50 millions pour pouvoir, tant soit peu, essayer de relever le niveau du social de nos fonctionnaires, de nos enseignants, de nos militaires, de nos policiers. Et c'est ce qui est prévu au budget que nous venons de voter au Parlement pour 2011.
Merci, Maître Jean Bouillou. François Mwamba, vous êtes secrétaire général du MNC et député national du même parti. Comment vous réagissez aux raisons avancées par la majorité par rapport à la proposition de loi visant la révision de la Constitution sur le mode de scrutin à un seul tour?
Sur le fond, l'opposition dit ceci. Nous sommes en 2011. L'agenda de la République démocratique du Congo, c'est d'aller aux élections et non pas de changer la règle du jeu, alors même que la compétition a commencé. Je fais souligner le fait que les opérations d'enrôlement ont déjà commencé dans le Bas-Congo et dans le Maniema. Nous sommes donc déjà bien entrés dans la compétition et ce n'est pas en ce moment-là qu'il faut venir poser de nouveaux problèmes qui compliquent la donne. Le chef de l'État, son rôle principal, c'est de s'assurer de ce que nous pouvons appeler la cohésion nationale. Il soulève le problème à un moment inopportun qui divise. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre communication d'hier, entre autres, nous avons lancé un appel vibrant au chef de l'État pour qu'il retire cette proposition, non seulement inopportune, mais regardez la configuration pour ne parler que de la question de un ou deux tours. Nous sommes un sous-continent. Plusieurs ethnies. On parle de 450. Plusieurs opinions. Deux tours, c'est précisément ce mécanisme qui nous permet, puisque structurellement, personne ne peut l'emporter dès le premier tour, à moins d'un miracle. C'est au cours du deuxième tour, en fédérant ces ethnies, en fédérant ces opinions autour d'une personne, que nous arrivons dans ce pays à créer les mécanismes qui font que, en dépit donc de la diversité que je venais d'indiquer, le pays reste gouvernable. Je viens d'écouter mon collègue qui est député comme moi, mais il a dit beaucoup de choses qui ne sont pas exactes. En 2006, la communauté internationale n'a pas participé pour 750 ou 720, je ne sais plus ce que mon collègue a dit, mais c'est 450 millions. Donc il faut tout de même qu'on revienne à des choses qui correspondent à la réalité. Deuxièmement, un deuxième tour ne coûte pas 350 millions. Notre Mbouli le sait très bien, puisque c'est combiné à l'élection ou aux élections au niveau provincial. De même que le premier tour est combiné par rapport aux élections législatives, mais comme vous le savez parfaitement bien, la majorité sait parfaitement bien que les élections principales en ce moment-là, ce sont les élections au niveau provincial, la désignation des députés provinciaux. et que donc combiné avec le deuxième tour, ça veut dire que le coût additionnel spécifique de ce deuxième tour serait dû à quoi? À l'impression de bulletin. Rien de plus, puisque de toute façon ces élections au niveau provincial vont avoir lieu. Hein? Donc on nous raconte des histoires. Ça n'a strictement rien à voir avec 10, 15, 20 millions. On peut effectivement imprimer ces bulletins. Et donc, puisque c'est combiné à un coût principal qui est incontournable, puisque nous faisons des élections dans ce pays au niveau provincial, je répète, le deuxième tour ne coûte pas plus de 20 millions. Donc on arrête de dire des choses qui ne correspondent pas à la réalité.
Et donc,
j'indique également, s'il vous plaît.
Oui. Allez-y. Et donc, je disais donc opposition perdue, c'est une pas question de revoir la Constitution pour des motifs qui ne tiennent pas debout selon votre déclaration.
Oui, tout à fait. Et d'autant plus que ça nous divise et ça nous retarde.
Est-ce que la démarche entreprise par la majorité n'est-elle pas constitutionnelle?
Non, le problème, ce n'est pas de dire que c'est constitutionnel ou pas. Ils ont essayé de toucher à l'article 220 de la Constitution, ça n'a pas fonctionné. Ils ont abandonné momentanément. Nous savons que momentanément, ils ont abandonné cette idée de toucher au mandat, au nombre de mandats et à la durée de mandat du chef de l'État. Pour le moment, les questions qui sont sur la table peuvent parfaitement être révisées. Ce n'est pas notre propos. Notre propos, c'est que c'est une autre cas. Pourquoi maintenant? Ça fait 5 ans qu'ils sont là. Ça fait 5 ans qu'ils ont pu constater effectivement qu'il y avait ceci ou cela qui n'allait pas. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Maintenant que nous devons aller de l'avant, l'argent est là. Mon collègue le sait très bien, il est député. Il est donc, comme moi, comptable de notre budget. Et tout ça, etc. 2010-2011, cet argent existe. Je répète que le deuxième tour n'écoute pas ce qu'on nous dit. Hein? C'est quelques bulletins, enfin des bulletins à la chose à imprimer, et le reste rentre dans le cadre de l'organisation des élections au niveau provincial. Donc on arrête de dire des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Hein? Donc nous l'avons dit, véritablement la majorité, puisque nous sommes tous des patriotes, nous aimons tous ce pays, faisons en sorte d'aller à ces élections en 2011, cessons de tourner autour du pot. La règle est connue au niveau constitutionnel, la règle est connue au niveau de la loi électorale. D'ailleurs, cette règle ne nous a pas été favorable en 2006, puisque nous ne comprenons pas non plus. En 2006, grâce à cette constitution, grâce à cette loi qui est encore en vigueur au niveau électoral, ils ont gagné. Mais alors maintenant, ils ont peur de quoi?
Alors, honorable François Mwamba, il y a cet auditeur de Goma, en fait, qui dit ceci, si la majorité persiste, car elle est majoritaire au Parlement, qu'il y ait élection avec deux candidats à la présidence, l'un de l'opposition et l'autre de la majorité, cette fois-ci, nous saurons si l'opposition est unie.
Non, ne faisons pas, ni à la radio sur Okapi, ni à travers des correspondances avec des frères et des compatriotes, nos stratégies, et tout ça, etc. Donc, chacun a son opinion. Ça, c'est l'opinion de l'auditeur que nous respectons. Nous avons nos propres laboratoires, nous avons nos propres canaux pour écouter et capter ce que le pays profond a comme idée à suggérer, et vous me permettrez de ne pas m'attarder davantage sur ce que vous dites. Je répète que, en ce qui nous concerne, nous considérons que la majorité est entrée dans des attitudes dilatoires. Probablement ont-ils peur d'aller aux élections, alors même, je le répète, que cette règle était en vigueur, sous-tendue par notre constitution et la loi électorale. Non, cette règle a été favorable en 2006. Alors qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup il y ait cette fébrilité et cette volonté de tout changer? Ce n'est pas une question d'argent, une fois de plus, c'est faux.
Merci.
Non, le financement, c'est 60% la République du Congo, 40% la communauté internationale, et la communauté internationale a fait ce qui aussi quelque chose qu'elle devait faire. Mon collègue ne dit pas la vérité. Les 40% ne posent aucun problème. Hein, et puisque c'est seulement cette part-là qui viendra de la communauté internationale cette fois-ci. Les 60% sont dans notre budget.
Merci.
Et le deuxième tour n'écoute pas ce que l'on dit, puisque nous allons quand même organiser les élections au niveau provincial. Donc, qu'on revienne à des attitudes républicaines, à des attitudes conformes avec l'intérêt général, et que les chefs de l'État retirent son projet. Sinon, effectivement, il créera des situations qui feront que ce pays, au lieu de participer à l'exercice qui concerne la stabilité à la fois ici et dans la sous-région, ne sera encore devenu, nous Congolais, la risée du monde, puisque, à cause de nous, la sous-région va continuer à s'enflammer.
Merci, honorable François Mwamba. Joseph Kongolo, bonsoir. Vous venez de faire votre entrée dans ce studio, meilleur vœu.
Merci, par exemple.
Merci. Comment vous analysez cette situation, la proposition de la majorité d'organiser un scrutin à un seul tour, l'opposition qui rejette cette proposition, quelle est votre analyse à ce niveau des débats?
Bien, merci madame pour m'avoir associé à ce débat. Ce qui est vrai, c'est que la révision constitutionnelle n'est pas en soi, c'est quelque chose de régulier. On peut réviser une constitution chaque fois qu'il y a des dispositions constitutionnelles ne s'adaptent pas à la situation sociale, à la situation politique ou à la situation économique donnée. Donc cela peut entraîner une révision constitutionnelle. Il y a des circonstances qui peuvent être soit politiques, soit sociales, soit économiques, qui peuvent pousser à la révision constitutionnelle. Donc, une révision constitutionnelle n'est pas en soi quelque chose de grave. Mais pour l'instant, il se fait fort malheureusement que la majorité qui est au pouvoir, qui a proposé la révision constitutionnelle à quelques 8-9 mois des élections générales, c'est exactement là que le bas blesse, dans le sens que, premièrement, il y a un problème de ce qu'on appelle la notion d'opportunité. En politique, l'opportunité, c'est une notion très essentielle. Une décision doit être dictée par des raisons qui soient objectives et qui soient acceptables par tous. Et même si, au-delà, même si cette opportunité peut poursuivre les intérêts de groupe ou les intérêts d'un groupe donné, soit les intérêts du groupe au pouvoir. Mais ce qui est réel et ce qui est vrai, c'est que l'opportunité ici n'a pas été une notion qui a été valablement exploitée par la majorité. Parce que nous sommes à 8 mois, pendant que tout les règles du jeu sont en train d'être exécutées, il y a l'enrôlement, il y a tout un tas de mécanismes qu'on a mis en branle pour que les élections aient lieu. C'est pendant ce temps que le pouvoir propose, comme ça subitement, une révision constitutionnelle pour modifier la règle du jeu. Je crois qu'en ce moment-là, la notion d'opportunité est de mise. Ce n'est pas bien arrivé, ce n'est pas le temps qu'il fallait, et pour cette raison, c'est comme ça qu'on interprète cela comme une révision tout à fait politique pour des raisons électoralistes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, effectivement, le député Mwamba vient de le dire tout à l'heure, il y a un problème de tâtonnement dans la gestion du pouvoir, dans l'encadrement du pouvoir. Il a été constaté fort malheureusement que la même majorité a proposé la révision du mandat, du nombre de mandats du chef de l'État à un certain moment. Et puis, après, c'était la durée du mandat du chef de l'État. Et aujourd'hui, c'est modifier les règles du jeu électoral. Donc, vous comprenez que c'est le cheminement normal d'une procédure, n'est-ce pas, qui vise, bien entendu, je vais dire, ça c'est le troisième élément que je vais insérer, c'est que la révision, notre histoire constitutionnelle démontre clairement que les révisions constitutionnelles participent, n'est-ce pas, à la personnification du pouvoir. On l'a vu dans la Deuxième République, les multiples révisions constitutionnelles ont amené à l'érection d'un régime dictatorial. Et cette fois-ci encore, avec la
constitution... Donc c'est des révisions taillées sur mesure.
Tout à fait. Ce sont des révisions qui tentent, petit à petit, à tailler sur mesure un type de pouvoir, un type de chef, ainsi de suite. Vous comprenez ça? Donc, l'histoire constitutionnelle de la République démontre très clairement que les révisions incessantes, les révisions constitutionnelles régulières taillent au fur et à mesure, petit à petit, n'est-ce pas, la constitution sur mesure de ceux qui sont au pouvoir.
Mais elle est constitutionnelle, la démarche.
Oui, en fait, la démarche est constitutionnelle. Mais l'analyse que nous faisons n'est pas que constitutionnelle, elle doit être aussi politique.
C'est pas le moment.
Effectivement, il y a un problème d'opportunité. Le temps c'est pas le temps. Ils ont eu 4 ans, ils ont eu à analyser, n'est-ce pas, la procédure, le processus électoral de 2006. Ils auraient dû proposer ça bien avant le débat. Serait entré dans la société, à ce moment-là, on aurait trouvé une solution. Mais à 9 mois des élections, je crois qu'il y a quelque chose qui tique. Il y a quelque chose qui tique. Et à ce moment-là, ça devient un peu difficile. Et l'autre élément qui est très essentiel, c'est ces révisions qui commencent. Ces révisions qu'on a proposées plusieurs fois et qui n'ont pas réussi et tout ça, montrent déjà que l'objectif poursuivi, c'est exactement de tailler par mesure à un jeu électoral pour se maintenir au pouvoir. Et ça, je crois qu'il fallait être beaucoup plus subtil pour le faire, et la manière que le pouvoir s'y est pris pour se faire, je crois que ça est allé aux yeux de tout celui qui a un œil exercé, et que c'est pratiquement une procédure qui n'est pas opportune.
Merci Joseph Kongolo, nous allons prendre cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Depuis le Sundi Boutomoïko, je suis à Kisangani, en province orientale. Et je voudrais dire qu'au moment où la composition du bureau de la CNIPEN nous amène encore à autre chose. Et comme on parle des problèmes financiers, moi je propose que les membres du gouvernement central, les sénateurs et nos députés, s'ils sont des vrais Congolais et soucis de la population, de donner la moitié de leur salaire, même pour 3 mois. C'est là pour permettre l'organisation des élections présidentielles à 2 tours.
Maître Joseph Kongolo, réaction.
Bien, c'est pas toujours facile que dans le Parlement, il y a les gens de l'opposition, il y a les gens du pouvoir, mais en fait, des raisons économiques avancées par le pouvoir, ce ne sont pas des raisons valables. Parce que, à voir l'histoire récente de notre pays, un pays conflictuel, un pays en guerre, je crois qu'il y a lieu. Il y a lieu, je pense, de sacrifier, de faire un sacrifice considérable au niveau du gouvernement pour que les élections se passent normalement comme la Constitution l'a prévu, et ce qui met d'accord tout le monde. Je ne vois pas pourquoi le pouvoir va devoir changer les règles du jeu à quelques jours des élections, mais le pouvoir devra faire l'essentiel, tout le sacrifice nécessaire pour que les élections se passent dans de meilleures conditions. Nous l'avions dit à son temps, que la CENI et les règles du jeu risquent, n'est-ce pas, de basculer le pays encore dans une situation conflictuelle qui ne risque pas d'aller dans le sens d'un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo.
Merci, M. Joseph Kongolo. Réagissant à la déclaration de l'opposition, Louis Koyagialo, secrétaire exécutif de l'AMP, pour lui, la révision constitutionnelle est un débat ouvert qui sera traité au Parlement. C'est aux parlementaires d'en décider. On l'écoute au micro de Radio Okapi.
Je dis que c'est une expression tout à fait démocratique. La majorité gouverne et l'opposition s'oppose. Nous avons des contraintes financières et je crois que nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte. Nous pouvons épargner ce que nous pouvons épargner en vue de le destiner dans une dépense dans l'intérêt du développement. C'est une proposition acceptable et dont on peut débattre.
François Mwamba, pour Koyagialo, la révision constitutionnelle est un débat ouvert qui sera traité au Parlement. Quelle sera votre réaction si ce projet de loi passait?
D'abord, je voudrais pouvoir souligner le fait que la voie parlementaire par le biais du Congrès n'est pas la seule voie possible. La dernière fois que nous avons eu, c'est-à-dire cette constitution donc de février 2006, c'est nous tous ensemble, M. Kuegel comme moi-même, qui avions battu campagne pour que cette constitution soit adoptée par le peuple congolais par référendum. Je ne fais que les mentionner pour que l'on puisse prendre la mesure du problème. On a adopté par référendum. Et maintenant, c'est légal, c'est vrai, on peut le faire, on voudrait pouvoir passer par la voie parlementaire, mais cette voie n'est pas une voie obligée. Deuxièmement, il ne faudrait tout de même pas que nos collègues élus, comme tout le monde, comme nous autres, de l'opposition, j'allais presque dire ces 350 messieurs et dames, finissent par considérer que du fait d'avoir été élus et qu'ils soient dans un regroupement majoritaire, ils deviennent propriétaires de la République démocratique du Congo. Il faut faire très attention. Le référendum, c'est-à-dire le peuple, le souverain primaire, s'y a directement validé cette constitution, et il est à craindre que s'il y a un abus de mandat, parce que ça voudrait dire cela en ce moment-là, si le peuple profond, le pays profond, est, comme nous le pensons, contre cette révision, il est à craindre que les 350 messieurs et dames qui sont au Parlement et qui se disent majoritaires se retrouvent en porte-à-faux avec le souverain primaire. Nous l'avons dit dans notre déclaration, nous prendrons, nous, en ce qui nous concerne, nos responsabilités. S'il y a passage en force, si on ne veut pas regarder les choses d'une manière républicaine, c'est-à-dire responsable, eh bien, en ce moment-là, effectivement, nous sommes convaincus que le souverain primaire, et qui est propriété de la République du Congo, qui a un référendum adopté cette constitution, aura son mot à dire. Alors, il faut faire très, très, très attention avec ces affirmations du type on est majoritaire, on peut faire ce qu'on veut. Non, pas du tout. Pas du tout. On est mandaté par le souverain primaire, et notre mandat est sous contrôle de ce souverain primaire. Si ce souverain primaire a l'impression qu'il y a des abus, eh bien, il prendra ses responsabilités, c'est ce que nous disons. Voilà.
Merci, honorable François Mwamba. Maître Jean Bouillou, vous avez suivi les analyses des uns et des autres. Donc, il n'est pas opportun aujourd'hui de revoir de réviser la Constitution sous le mode de scrutin. Comment vous réagissez à cela? Et puis l'opposition dit aussi qu'elle prendra ses responsabilités s'il arrive à ce que cette loi passe. Comment vous réagissez, Maître Bouillou?
Oui, merci madame. Non, en fait, il y a du n'importe quoi. Sincèrement, je regrette. Hein, ce débat est trop bas. D'abord, sur la question des chiffres. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Les chiffres sont clairs. En 2006, nous avons effectivement, la communauté internationale a dépensé plus de 700 millions de dollars, dans lesquels 546 millions de dollars ont été financés en espèces par la communauté internationale, le restant ayant été fait par la logistique de la MONUC. Donc ça, on ne peut pas le nier. Et je sais que l'honorable François Mwamba, qui est à la tête d'un grand parti, qui est lui-même un brillant économiste, puisqu'il a été un excellent ministre du budget, il connaît cette vérité-là. Nous allons en 2011 aux élections. La communauté internationale a fait savoir qu'elle ne pourra pas mobiliser plus de 90 millions de dollars. Entre-temps, le budget établi par la CEI, déjà en 2005, et lui le sait, indiquait que le coût des élections était à 715 millions de dollars. Ok, aujourd'hui il dit oui, mais le deuxième tour ne va pas coûter plus de 20 millions. Mais quelles sont les tables établies qui indiquent les nouveaux chiffres? Nous savons d'ailleurs que tous les analystes internationaux qui ont établi, qui ont réfléchi sur les élections au Congo, ont établi ces chiffres-là. Donc on ne peut même pas le nier. C'est pour cette raison que nous disons, si c'est moins, tant mieux. D'ailleurs, nous devrions tendre vers moins. Lorsque l'Angola à côté organise ses élections à 100 millions de dollars, lorsque l'Afrique du Sud les organise à 128 millions de dollars, lorsque la Tanzanie les organise à 65 millions de dollars, nous aimerions bien, nous aussi, avoir des élections qui ne nous font pas dépenser tout ce que nous avons. Mais comment y arriver? C'est nous qui devons le décider. Mais à ce jour, les états présentés par les experts des Nations Unies et de la communauté internationale nous donnent ce chiffre de 715 millions de dollars. Alors nous disons ceci. Dans notre budget, nous avons prévu 360 millions. Nous n'avons pas la garantie d'avoir le surplus. Nous organisons des élections au premier tour et au deuxième tour avec les moyens qui sont à notre disposition. Alors, qu'on vienne maintenant dire qu'il y aura des moyens, qu'on peut dépenser moins, mais ça, il ne faut pas le dire, il faut le prouver. Et c'est pour ça que je réfute tout ce qui a été dit et qui n'a pas été chiffré, qui n'a pas été mathématique, en ce qui concerne ces élections de 2011. D'autre part, mon ami l'analyste qui a tout à l'heure exposé ses arguments contre la révision...
Joseph Kongolo.
Pardon?
Il s'appelle Joseph Kongolo.
Ah, monsieur Joseph Kongolo, à qui j'ai beaucoup de respect, ne donne aucun élément, disons, scientifique qui permette d'apprécier pourquoi il ne faut pas organiser les élections à un tour. Les éléments mathématiques nous le démontrent, mais il y a aussi un argumentaire politique. Nous voulons dépenser, mettons, 700 millions de dollars dans les élections. Les coûts des travaux que nous sommes en train de réaliser à Kinshasa maintenant pour l'aménagement de la capitale ne sont même pas encore à 500 millions de dollars. Quelle est la logique que nous devons prendre, nous, comme pays pauvres, de consacrer l'essentiel de nos moyens à des belles élections démocratiques, alors que nous savons qu'il y a beaucoup de pays, tant occidentaux que africains, qui organisent leurs élections à un tour. Et on ne dit pas pour autant que ces pays-là ne sont pas démocratiques. Je ne voudrais pas citer des pays qui ont des systèmes où il est reconnu que même pas 35% de la population ne participe aux élections. Les États-Unis en tête. Même pas 35% de la population ne participe aux élections. Mais on ne dit pas pour autant que ce pays n'est pas démocratique. Voyez les élections au Canada lorsqu'on désigne le Premier ministre. Voyez les élections en Grande-Bretagne lorsqu'on désigne le Premier ministre. Mais dans toutes ces élections, on n'atteint même pas 40% de vote. S'il vous plaît. Et les premiers ministres qui gouvernent ces pays-là sont dit élus démocratiquement. Bon, mais revenons à nous, revenons à notre pays. Par rapport aux moyens que nous avons, je ne vois pas comment un chef d'État comme Joseph Kabila peut se donner la liberté d'organiser des élections à deux tours lorsqu'il sait qu'il n'a que les moyens d'un tour. Une fois un tour terminé, on va se retrouver devant un premier, un deuxième sera la possibilité de passer immédiatement au deuxième tour. Qui va devenir président? On veut le faire comme dans le schéma ivoirien, quoi.
Mais la
responsabilité est qu'on ait réalisé des moyens avant d'y arriver. S'il vous plaît.
Oui, Nassambou, il y a cet auditeur de l'Afrique du Sud, il s'appelle Abou Bia, et qui dit ceci. Qu'est-ce qui arriverait si on se retrouve avec trois candidats ayant les mêmes pourcentages au premier tour?
Bon, c'est un cas d'école, hein. C'est un cas d'école, c'est de la spéculation. Mais généralement, on devrait toujours avoir une différence de voix qui permettrait de les partager. Et à tous les mois, il y a une modalité, en cas d'égalité, il y a des critères qui permettent de désigner qui sera nominé au deuxième tour.
Alors, restez avec nous, maître Jean Boulou, on va prendre cet autre auditeur de Bukavu.
Arnaud Lindou, je suis à Bukavu, c'est étonnant, d'autant plus que j'ai vraiment évoqué un motif concernant les structures de l'UDPS. Moi, je me demande comment on va faire là pour les élections provinciales, d'autant plus que celui qui s'organise au même moment, provincial et présidentiel. Comment on peut justifier cela? Parce que les budgets affectés aux élections présidentielles sont combinés avec les élections provinciales. C'est-à-dire que nous n'avons plus d'assemblées provinciales, et donc les gouverneurs sont plus élus par les assemblées provinciales. Donc là, un peu de nous préciser. Par rapport à cela.
Maître Jean-Boulou, réaction.
Oui, dans beaucoup de pays, ceci c'est à titre d'information, les élections ne sont pas toutes organisées à la même date. Il y a des pays qui organisent d'abord les présidentielles, ensuite les législatives et probablement enfin les provinciales. Chez nous, en 2006, nous avons organisé les élections présidentielles et les élections législatives au même moment. Mais il arrive fréquemment que ces élections soient décalées. Alors, les élections provinciales peuvent également être décalées compte tenu des moyens. Mais ce qui est préférable, c'est que nous organisions et les nationales et les provinciales avec les moyens que nous avons, c'est-à-dire les moyens du budget des Congolais. Voilà.
Merci, Maître Jean-Boulou, Joseph Kongolo. J'ai votre analyse à ce niveau des débats.
Bien, Maître Jean-Boulou a parlé des présidents et des premiers ministres élus au deuxième décret ou à un seul tour. Et ce qui est vrai, je crois que Maître Jean-Boulou est suffisamment informé que le décret de culture politique de notre population ne peut pas permettre à l'heure actuelle d'avoir un président élu soit au deuxième degré, comme il est dit dans d'autres pays. Nous savons que nous avons encore des fissures au niveau de la population, des fissures qui ont été qui s'ouvrent davantage, donc qui sont encore béantes aujourd'hui, et il faudra construire la nation, et construire la nation, je crois, c'est d'éviter les divergences criantes entre des forces politiques qui peuvent, demain, mettre en danger la cohésion nationale. Donc, ça, on le sait. Donc, ce sont autant d'éléments qui concourent, n'est-ce pas, à maintenir le système électoral actuel. Parce que La société est encore fragile, parce que eux-mêmes veulent bien le dire, que c'est une société qui est post-conflit, et tout ça, ainsi de suite, qui a beaucoup de problèmes, ainsi de suite. Moi, je crois que il faut épargner cette société, n'est-ce pas, d'autres trans, du genre, des divisions politiques, n'est-ce pas, autour du système électoral. Et je crois que ça risque encore d'ouvrir beaucoup de divergences et peut-être fragiliser la fragile cohésion actuelle. Donc, ce que je pense, c'est d'arriver à se mettre d'accord entre l'opposition et le pouvoir sur un mode de scrutin qui devra les mettre tous d'accord. Et je crois que la majorité de la population, je l'espère, ça c'est un point de vue, semble vouloir maintenir le système à deux tours. Parce que c'est toujours un système combiné des élections. Comme l'auditeur de tout à l'heure vient de le dire, il y a les élections provinciales qui sont combinées au deuxième tour, aux élections présidentielles au deuxième tour, les élections parlementaires combinées, mais pas aux élections présidentielles du premier tour. Moi, je crois, très franchement, que pour éviter encore des divergences qui risquent de fragiliser la cohésion nationale, autant garder le même système électoral, n'est-ce pas, et aller aux élections en 2006, voir...
Mais la majorité évoque les problèmes de moyens.
Mais la majorité est adulte.
Vous pourrez se mettre d'accord, majorité opposition.
Ce n'est pas un problème de moyens, ça je le sais, ce n'est pas un problème de moyens. Les moyens, il faut les trouver. Moi je crois que la cohésion de la République, c'est quelque chose qui doit demander du sacrifice et à la majorité, et à la minorité, et à la population tout entière. Donc, nous n'allons pas accepter de basculer encore dans une situation conflictuelle, simplement parce que on a manqué de 5 millions de dollars, on a manqué de 300 millions de dollars, vous voyez ça? Donc, l'essentiel pour nous, c'est d'arriver à maintenir la cohésion nationale, n'est-ce pas? Et maintenir cette cohésion nationale, c'est se mettre d'accord autour du système électoral. Je crois que c'est vraiment assez tard. Et l'opportunité, le taux d'opportunité n'est pas clairement établi. Je crois que autant terminer cette législature avec le scrutin à deux tours, les élections présidentielles à deux tours, et voir dans la législature prochaine si on peut modifier la constitution cette fois-là, peut-être froide, parce qu'on ne sera pas en fin de mandat pour pouvoir se discuter un autre mandat. Donc, voilà à peu près les éléments qu'il faut ajouter à ça.
Maître Joseph Kongolo, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter une éventuelle crise? On avait déjà parlé de dialogue, en plus du dialogue, qu'est-ce qu'il faut d'autre?
Alors, je crois qu'il faut, vous savez, en politique, il y a plusieurs procédures qu'on peut mettre sur pied pour pouvoir harmoniser les vues entre différentes tendances. Au-delà de tout ce qui est institutionnel, parlement, congrès, ainsi de suite, et tout ça, parce que là, on va se limiter à ceux qui sont dans les structures, dans les institutions. Moi, je crois qu'il y a lieu d'ouvrir la concertation, n'est-ce pas, à d'autres forces politiques et sociales. Associer aussi la société civile, ouvrir des portes à d'autres structures sociales, de manière à ce que le débat soit lancé et qu'on arrive à trouver, n'est-ce pas, un point de vue qui met tout le monde d'accord. Donc, je crois que c'est essentiel, compte tenu d'une histoire récente très conflictuelle. Je pense franchement que le pouvoir et la majorité, la majorité et l'opposition, ainsi que les forces sociales, doivent participer à ce débat et trouver un compromis pour pouvoir aller aux élections tête froide.
Merci, Joseph Kongolo. Honorable François Mwamba, je vous pose la même question. Que peut-on faire pour éviter une éventuelle crise?
Oui, mais peut-être d'un mot hein, par rapport à ce que mon collègue, qui est un brillant avocat, il sait combien je l'apprécie également, Maître Mbuyu, mais il a pris un mauvais exemple pour essayer d'illustrer son propos en parlant du président des États-Unis. S'il y a un chef d'État au monde ici qui est excellemment élu, c'est bien celui des États-Unis qui subit deux suffrages universels plus une élection au second degré. Parce que pour être président des États-Unis, il faut passer par les primaires. Il faut ensuite, et la population est élue, les grands électeurs, tout ça au suffrage universel. Et c'est ensuite simplement qu'il est désigné au second degré. Donc ça, c'est un mauvais exemple et un faux débat. Que faut-il faire? C'est très simple. Nous avons un président de la République élu en 2006 qui s'appelle Joseph Kabila dans ce pays. Qu'a-t-il à faire en tant que chef d'État? Je ne parle pas du candidat Joseph Kabila qui va concourir, comme tout le monde, dans quelques mois, à une nouvelle compétition, une nouvelle élection. Le chef de l'État, son premier rôle, l'expert que nous avons avec nous venait de le dire, c'est de préserver la cohésion nationale. le paramètre principal est celui-là. Le problème qui est ici posé, je l'ai dit, divise. Et c'est donc, nous prenons le risque maintenant de sortir d'un cadre consensuel. Je répète que la Constitution du 18 février 2006 et les MLC et le PPRD, tout le monde a fait campagne pour que, par référendum, ça puisse être adopté. C'est donc une démarche consensuelle. Le président de la République prend le risque de sortir de ce cadre consensuel pour poser les problèmes constitutionnels dans des termes partisans. Et c'est donc à partir de ce moment-là, la vraie question étant celle-là, qu'est-ce qui va arriver lorsque cette constitution va cesser d'être l'instrument d'un consensus national et devenir une affaire d'une famille politique? Qu'est-ce qu'on mesure des risques en termes de déchirement du tissu, en termes par rapport à la société congolaise? C'est extrêmement grave, et donc je répète l'appel que l'opposition, toute tendance confondue, a fait au chef de l'État hier, Monsieur le Président, retirez votre proposition. Allons aux élections sur base des règles connues et qui nous ont fait élire. Où est le problème?
Merci, honorable François Mwamba. Maître Ombou, est-ce que la majorité a mesuré les risques que cela pourrait engendrer?
Oui, la majorité a mesuré le risque, y compris pour nous-mêmes. Il n'est pas dit que lorsque c'est une élection à un tour, cela veut dire que le président qui est en place va gagner. Non! Et d'ailleurs, comme l'a si bien dit le président de l'UDPS, il dit, même si c'est à un tour, nous sommes prêts à gagner ces élections. Et là, il a tout à fait raison. Il n'est pas dit que lorsque c'est à un tour, cela veut dire que c'est la majorité qui va gagner. Mais le président de la République, en âme et conscience, devant sa responsabilité face à la nation, il ne peut pas organiser des élections pour lesquelles le pays ne dispose pas de moyens adéquats. Et ces moyens qui ont été promis depuis 2007 n'ont pas été confirmés. Et ça, c'est un élément objectif, malheureusement, qui n'est pas discuté par mes interlocuteurs, parce que justement, ils n'ont pas d'argument. S'ils avaient un argument pour dire, oui, il y a tel endroit, tel montant qu'on peut mettre dedans, ça aurait été facile. Alors, le risque que nous prenons, nous ne le prenons pas en termes de préserver le pouvoir, nous le prenons en termes de préserver les acquis de la nation, c'est-à-dire la démocratie. Nous allons vivre cette démocratie avec les moyens qui sont possibles à la République démocratique du Congo. Nous mettons donc le mandat lui-même du chef de l'État en risque. Parce que, prenez le cas le plus simple, l'opposition se prépare. Maintenant qu'on est à 9 mois, si pas 10 mois des élections, eh bien l'opposition affûte ses forces et en novembre prochain, et s'en sort avec un score supérieur à celui du président en place, qui est suivi par d'autres partenaires politiques. Autant que nous pouvions espérer un deuxième tour, où nous faisons une coalition entre le deuxième, le troisième et le quatrième, autant nous aurons perdu non seulement la coalition, mais même le mandat présidentiel. Il ne faut pas penser que l'affaire du premier tour est un avantage donné au chef de l'État. Pas du tout.
Maître Jean-Bouillon, nous sommes dans la salle de notre émission. Je vais vous demander de conclure en 30 secondes.
Oui, je pense que la proposition de faire des élections à un tour et toutes les élections si possible est fondée sur des besoins, des moyens financiers disponibles à nous. Et si un pays d'Occident ou d'ailleurs est disposé à compléter le budget, nous dirons ok, on va aux deux tours. Mais nous ne pouvons pas mettre deux tours sans la garantie des moyens de les organiser. Et j'invite le peuple congolais à comprendre cela, à l'opposition de rejoindre cette opinion. Et dans les jours qui viennent, on va la discuter au Parlement.
Merci
beaucoup. Et nous allons tous, de part et d'autre, argumenter et trouver un compromis, mais en faveur des moyens qui sont disponibles.
Merci, Maître Jean-Bouillon, honorable François Mwamba. 30 secondes aussi pour conclure.
Oui, en 30 secondes pour conclure, je dirais ceci et je confirme mes propos de tout à l'heure. Il n'y a pas de problème d'argent. Nous avons prévu au budget de l'État suffisamment de moyens pour couvrir à hauteur de 60%, c'est ça l'engagement de la République, l'ensemble du processus, et notamment ce qui concerne la part. Et c'est ce que nous devons faire en 2011. Et donc, comme il n'y a pas de problème d'argent, comme le problème est posé d'une manière inopportune, nous disons, c'est de la politique politicienne, et une fois de plus, qui met en danger la cohésion nationale.
Merci, honorable.
Et qu'on n'aille pas penser que le problème va se régler au Parlement.
Merci, honorable. Merci, honorable.
Ne l'espère pas faire.
Merci, honorable, monsieur Lassane, de cette émission. Merci d'avoir suivi cette diffusion demain qui s'assortira hors de Kinshasa. Bonne soirée chez vous.